RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Salut à tous, si vous nous rejoignez seulement maintenant sur l'antenne de RMC, c'est Motors, vous le savez, comme tous les dimanches, de 13h à 14h, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de sport mécanique et particulièrement, évidemment, de moto aujourd'hui, puisque nous sommes en direct depuis le circuit du Mans où se déroule, où va se dérouler le Grand Prix de France. On va en parler dans un instant, c'est dans le Tour de Chauffe.
RMC Motors, le Tour de Chauffe.
Voilà, et quel tour de chauffe, j'allais dire, puisque nous sommes en compagnie de l'organisateur de ce Grand Prix. Ça fait 25 ans qu'il organise ce Grand Prix de France. Il s'agit de Claude Michy. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et puis Dominique Sarron est avec moi également. Salut.
Bonjour.
Dominique. Et puis Patrick Plisson est avec moi aussi. Il va rester avec moi. On va commenter le Grand Prix tout à l'heure. Claude, je sais que tu es pressé. Enfin, t'as pas l'air, ça va. Un homme pas stressé, en tout cas, par l'organisation de ce Grand Prix de France. En tout cas, félicitations une nouvelle fois. C'est un succès. Est-ce qu'on peut annoncer le nombre de spectateurs présents ici? Il me semble que c'est encore plus que l'an dernier.
Oui, je pense qu'on a un petit peu plus que l'année dernière. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être autour de 106 000.
106 000. C'est peu de dire qu'effectivement, le public soutient non seulement Valentino Rossi, mais Johann Zarco, il a fait le boulot, hein. Il a déjà signé la pole.
Ah, il a été exceptionnel, mais il est exceptionnel depuis un moment. La lumière s'est allumée au Qatar l'année dernière, elle s'amplifie tous les jours, il y a de nouveaux projecteurs qui se mettent en place. Et malgré tout ça, il arrive à bien séparer ses activités diverses et ce qui est la concentration pure et dure et qui est le fond du sujet. Et c'est, on va voir tout à l'heure, mais ça va être un beau combat. Ça va être de toute façon un beau combat, parce que quand vous avez des gens de cette qualité...
La grille de départ est magnifique, avec Marquez à ses côtés. Ouais.
Oui, puis même ceux qu'on pense qui sont un peu en délicatesse, comme Rossi, Vinales, faut se méfier, quoi. Faut se méfier.
Oui, surtout en course. Alors Claude, si on revient sur ce Grand Prix de France, je l'ai dit, 25e édition sous ton égide, et le contrat a été reconduit avec la Dorna pour 5 années supplémentaires. Ça veut dire que là, on y voit clair jusqu'en 2026, c'est bien ça?
Oui, on était en contrat jusqu'en 2021 et on a poursuivi jusqu'en 2026. Donc, je sortirai de l'EHPAD pour venir directement au Grand Prix.
Non, mais on sait qu'il y a une belle équipe autour de toi, notamment avec ton fils, ta fille et puis tout ça qui t'entoure. C'est compliqué d'organiser un Grand Prix de France dans un pays. Alors les gens viennent toujours au secours du succès, mais ça n'a pas été évident à un moment, parce que la moto en France n'avait pas une superbe image.
Oh ben, entre les ayatollahs verts, la vie administrative, etc. Effectivement, c'est du 110 mètres.
C'est un sacerdoce. Voilà.
Mais bon, je pense que au fur et à mesure du temps, le succès du Grand Prix a permis qu'on soit pris en considération et respecté. Donc quand les choses se passent, il y a un peu plus d'écoute, et on doit dire que maintenant, bon, la collaboration qu'on a avec les services de l'État qui font bien leur job, bien sûr le Touring Club de l'Ouest avec qui on collabore depuis de nombreuses années, tout ça a bien pris forme, et on va dire qu'aujourd'hui, cette année, c'était quand même... la météo est fantastique, donc ça facilite les choses. Si vous voulez, tout est au vert, donc ça va continuer d'être au vert, puisque je pense que Johann Zarco peut gagner, donc ça serait parfait.
Alors justement, avant, peut-être Dominique a une question à te poser aussi, lui qui était donc pilote de deux Grands Prix, effectivement, troisième au championnat du monde, avec plusieurs victoires en Grand Prix. Et Claude, ma question, c'est est-ce que le motocyclisme en France, le monde de la moto, même au-delà peut-être le monde des sports mécaniques, a besoin d'un porte-drapeau comme Johann Zarco? Parce qu'en plus, il a un discours qui est extrêmement intelligent, je trouve. Non seulement il est rapide sur la moto, mais en dehors, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est capable d'aligner trois mots. C'est un bel ambassadeur.
C'est surtout quelqu'un qui est en train d'être découvert par le grand public. C'est l'homme qui est intéressant. Le pilote, il est performant, mais là, tout le monde découvre un homme fantastique qui a travaillé énormément, qui a été deux fois champion du monde dans l'ombre la plus totale. Hein, on parle de champion de tennis français qui va être éliminé en huitième de finale, ouais, ou en seizième, ou même avant, au premier tour. Mmh. Et on en parle, et le champion du monde, on n'en parle pas. Alors, donc, c'est un peu délicat. Mais je pense que les barrières sont en train de tomber. On sent vraiment un intérêt des médias autour de Johann, et puis il a un discours, il est resté normal, naturel. Bon, on l'a vu hier sur le show mécanique avec son école, la ZF Grand Prix. C'est un garçon qui, si vous voulez, a réussi à mettre les disquettes l'une après l'autre et il change quand c'est le moment. Et ça, mentalement, c'est exceptionnel. Vu les sollicitations qu'il a et ce qu'il a fait, quoi qu'il se passe, c'est fantastique.
C'est fantastique. Dominique Sarron, qui est avec nous, ancien pilote de Grand Prix, bien sûr, bon, toujours dans le monde de la moto et impliqué plus que jamais. Dominique, le Grand Prix de France moto, justement, on en parle régulièrement, pour un pilote français avec un tel public, c'est un plus ou c'est difficile? Comme le dit Johan, d'ailleurs, il dit que le soutien du public, finalement, c'est une motivation supplémentaire.
Oui, bah, tout à fait. Pour un pilote français, briller devant son public, c'est exceptionnel. Alors après, faire une pole position et concrétiser après en course, il y a encore une autre pas à faire.
Autre chose.
Quoi qu'il en soit, en tout cas, Johan arrive à très bien gérer cette pression. Au contraire, c'est un élément positif parce que la pression, tous les pilotes en ont. Quand on est à haut niveau, quelle que soit la discipline, la pression, on l'a pour un résultat, pour une performance. Mais cette pression, il faut arriver à la canaliser et faire en sorte que ça soit un boost au contraire. Et je pense que Laurent Felon et Johan ont très bien réussi cette alchimie.
Alors Dominique, il y a une petite pointe d'accent là. Il y a un nid du côté de l'Auvergne ou comment ça se fait? Parce que Claude Michy, tu ne vas pas renier tes origines. Il est président du club de foot, on va rappeler, de Clermont. Dominique, Christian, bien sûr, vous êtes de là-bas. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est l'alchimie dans
c'est les volcans.
C'est les volcans.
C'est les
d'accord,
volcans.
C'est ça.
Oui.
C'est
nocturne.
D'accord. Ah aussi. Ah bon, d'accord.
Donc les volcans.
C'est le fait de grimper des pentes alors peut-être.
Les volcans, ils peuvent toujours faire une éruption à tout moment.
Ouais.
Bah oui. Donc ça couve, il y a le feu qui couve.
C'est magnifique. Ouais. Pour redevenir sérieux, Claude, parce que je sais que tu vas peut-être devoir aller sur la grille de
travail.
Oui, c'est pour ça que j'ai envie de te poser encore une ou deux questions. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer de mieux, j'allais dire, parce que là le circuit est plein ou quasiment plein, il y a des écrans partout, les tribunes étaient pleines avant. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu peux parler? Qu'est-ce que tu souhaites faire pour mieux encore accueillir les spectateurs et les motards si c'est possible?
Chaque jour suffit sa peine, on va déjà regarder ce qu'on n'a pas bien fait cette année pour essayer de s'améliorer, ce qui est un premier point. Et puis de travailler sur ce type de choses. Bon, et pour revenir à ce qu'a fait Johan, je vais vous dire deux réflexions dont je ne citerai pas mes sources, mais qui sont plus que sérieuses. Valentino Rossi a dit, je sais pas comment il fait, mais moi j'y suis pas arrivé. Et Marc Marquez a dit, j'ai fait le tour parfait. Et donc je pouvais pas aller plus vite.
Ah ouais. Donc effectivement ça résume bien la situation. Claude, je te libère. Merci infiniment d'être venu ici au micro de d'RMC pendant ce début de l'émission Motors. Patrick Plisson nous rejoint maintenant. Dominique, on va faire la transition. Donc je l'évoquais il y a un instant. Donc tu as été pilote de Grand Prix. Est-ce que ton Grand Prix national justement à l'époque c'était un événement particulier? Alors on sait qu'il y a toujours une pression autour des pilotes parce que il y a la famille. Il y a les amis, est-ce que finalement c'est un rendez-vous que tu attendais particulièrement ou que tu redoutais, j'ose le dire?
Non, je le redoutais pas, mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu sensible et perméable à cette pression. Alors il y a une réaction qui peut se concrétiser ou se matérialiser de diverses façons. Ça peut brider un peu sur la moto, mais ça peut engendrer aussi d'autres problèmes physiques, parce que ça peut aller jusqu'à la boule à l'estomac qui on a des problèmes entre guillemets gastriques. C'est l'heure du repas, faut peut-être pas en parler,
mais
c'est un petit peu compliqué.
Ouais.
Mais bon, moi j'ai le souvenir, j'ai débuté en Grand Prix là sur le circuit du Mans, donc c'était en 85, mais après le Grand Prix a émigré sur le circuit du Castellet, et j'ai le souvenir justement d'avoir réalisé des pole positions au Grand Prix de France, donc cette pression-là, pour moi, c'était pareil.
Tu réussissais à la transformer
en
motivation positive.
On peut en parler avec Hervé, qui était de l'aventure à l'époque.
Ouais.
Mais après, le Castellet avec sa grande ligne droite, j'ai encore un souvenir où le dernier tour à l'amorce de la dernière ligne droite au Castellet.
Ligne droite du Mistral.
La ligne droite du Mistral, cette fameuse ligne droite qui a donné le nom justement à la moto de chez Tech 3. Je sors en tête à l'amorce du dernier tour et je me retrouve 6 ou 7e en bout.
Avec l'aspiration bien sûr.
Aspirations, c'était complètement hallucinant et j'ai réussi à terminer sur le podium. Je crois que c'est 2 ou 3, mais il a fallu vraiment s'arracher dans la courbe de Signe retour sur le dernier virage, sur le
Le droit du bosser,
le droit,
oui. Ah ouais, ça c'est.
Donc c'est pour ça que la course moto, même si on a tous les éléments en main, il se passe que, on l'a vu encore ce matin en moto 3, il y a eu un accrochage dans le dernier virage.
Absolument.
Donc c'est pour ça que c'est pas évident à gérer et en fonction des circuits, il y a des caractéristiques de circuits qui font que même si on est devant, on n'est pas sûr de pouvoir gagner dans les derniers virages.
Bien sûr.
Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport.
C'est l'intérêt et le rôle du pilote, effectivement. Patrick Plisson est avec moi. Bonjour Patrick, merci de rester avec moi et tu seras avec avec moi tout à l'heure pour tout le Grand Prix qu'on fera en direct justement sur l'antenne de d'RMC. Alors la question évidemment elle est un peu similaire à celle de Dominique. Toi aussi tu as eu la gentillesse et l'honnêteté de me communiquer toi une fois huitième au Grand Prix de France. Alors est-ce qu'au contraire toi il y avait voilà, raconte-nous un petit peu le Grand Prix de France pour un pilote français.
Eh ben j'ai que des mauvais souvenirs au Grand Prix de France.
Ah ben voilà.
Ou presque pas de souvenirs. Effectivement, j'ai même recherché un peu dans ma mémoire, j'ai fait une fois huitième au Grand Prix de France. Je me rappelle il y a eu deux chutes. Par contre, j'ai tous fait au Mans, c'est ici.
D'accord.
C'est ici, il y a déjà pas mal d'années mais et il y a eu deux chutes et puis il y avait eu même une panne d'essence. Enfin, c'était la panne d'essence, en fait, j'exagère un petit peu, c'était à la séance qualif.
D'accord.
Où bien sûr, j'allais faire le meilleur temps.
Évidemment, hein. Fallait faire la pole, mais bon.
Et le préparateur à l'époque, c'était quand même un petit peu amateur à l'époque, hein. Bref, pas assez d'essence, et dans le dernier tour où je vais faire un super chrono, je me rappelle tout au moins de ce détail.
D'accord.
Donc, Grand Prix de France, pas terrible. La pression. Bah à l'époque, en fait, surtout c'est qu'on connaissait pas, parce que comme on était relativement amateur, bon, il y en avait de la pression, mais c'est sûr que ça a rien à voir avec aujourd'hui.
Ça a rien à voir avec ce que c'était.
Et c'est sûr qu'on l'a géré mal.
Alors, on parlait du circuit du Mans justement. On va commencer continuer à parler de Johann Zarco plus exactement. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir de près. Est-ce qu'il a eu le temps ou est-ce qu'il est dans sa bulle? Moi, je l'ai vu en conférence de presse donc hier aux côtés de Marquez, que je disais. Et après, il s'est adressé aux journalistes français en répondant absolument à toutes les questions, en prenant le temps de répondre. Alors effectivement, il a un timing de fou, hein, ce que je disais. Parce que Grand Prix de France pour un pilote français ou ailleurs, d'ailleurs, t'as tous les amis, t'as toute la famille qui représente une perturbation complémentaire, mais il me paraît d'une lucidité qui est impressionnante.
Il est vraiment assez exceptionnel et moi je pense sincèrement que de mémoire d'ancien pilote, j'avais jamais vu ça. Ouais. C'est cette maîtrise, non seulement une maîtrise de son pilotage, une maîtrise par rapport à son approche de la course, à la façon de travailler avec son équipe et en dehors également de la course, où il a une gestion de sa carrière. Il y a Laurent Felon quand même qui est là.
On va en parler du choix de KTM, justement.
Pour lui établir son planning, pour faire en sorte que de toute manière, il arrive quand même à s'isoler un peu avant de prendre le départ à 14h. Donc je crois que maintenant, à ce niveau-là, et par rapport au statut qu'il commence à avoir, c'est important qu'il ait un entourage qui lui permette justement de se stabiliser et d'aborder les courses à 110% même. Parce que par rapport à la séance qualificative, moi j'étais en bord de piste, quand on l'a vu passer, là je me suis dit, là, ça c'est le tour où ça va claquer.
Ouais. Tout de suite, tu l'as vu, il était parfait partout.
Je l'ai vu, ouais. Il était vraiment à l'arrache. Je veux pas dire que c'était un peu une similitude avec Marquez qui se donne vraiment à 100% en rétrant glisse.
En allant jusqu'à la chute d'ailleurs pour tester à quels endroits il peut. Hein, c'est
mais
incroyable.
Quand il est passé dans son tour, dans son dernier tour, j'étais en haut de la Dunlop, de la chicane Dunlop. Impressionnant, là j'ai dit, là, si ça va jusqu'au bout, normalement...
S'il finit le tour, si ça va être le
tour,
bon.
Ça devrait le faire. Donc ça montre quand même que ce pilote, il a confiance en lui, il a confiance dans sa moto, et il arrive à s'exprimer vraiment à fond, et utiliser le potentiel de sa moto, parce que faut quand même savoir qu'il a une moto, alors je veux pas dire qu'elle est très inférieure au Yamaha officiel, mais c'est pas, je pense qu'il y a quand même un tout petit déficit de performance. Donc c'est là où quand on est un petit peu dans le milieu, on se rend compte de la performance. Ce qu'il a fait hier, c'est vraiment exceptionnel.
C'est vraiment exceptionnel, effectivement. Jacques Boll, le président de la Fédération française de moto, nous a rejoint lui aussi, et j'ai plaisir à le rappeler à chaque fois, ancien pilote de Grand Prix et vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Bonjour Jacques et bienvenue sur l'antenne de RMC.
Bonjour à tous.
Écoute, c'est un plaisir, c'est ce qu'on était en train de parler, tu l'as compris, de Johann Zarco, de cette pole absolument magnifique. Et Dominique nous expliquait qu'il était sur le circuit au niveau de la passerelle Dunlop et il a senti que ce tour-là, c'était le tour magique. Tu l'as vécu comment, toi aussi et on va dire qu'il est fidèle, il est présent au rendez-vous.
Non, moi, c'est la performance globale que j'apprécie. Hein. C'est aujourd'hui, Johann est aux avant-postes. Il est capable de remporter le Grand Prix aujourd'hui, bien sûr, mais il est capable d'être champion du monde. Et pour le sport moto français, c'est tout à fait exceptionnel.
Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Claude Michy, entre autres, effectivement. Toi aussi, en tant que président de la Fédération française de moto, on sait que la Fédération est auprès de tous les jeunes pilotes à aider, même financièrement, un certain nombre de jeunes pilotes et beaucoup de jeunes pilotes.
Y compris Johann Zarco.
Y compris Johann Zarco. Ben voilà, c'est le moment de le dire, justement. Ça veut dire que c'est une fédération qui est impliquée et qui est présente. Et j'allais dire, c'est la question que je te pose chaque année, mais on peut pas y couper. Puis il y a beaucoup de nouveaux auditeurs sur AMC qui nous écoutent. Le fait d'avoir été pilote de Grand Prix et sportif de haut niveau toi-même, ça t'aide à mieux comprendre et peut-être à mieux analyser ce qui manque à certains jeunes pilotes?
Notamment leurs difficultés financières.
Ouais.
C'est vrai que moi-même, j'y ai été confronté. Donc aujourd'hui, je sais que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on peut, si on a la possibilité d'aider les pilotes prometteurs, il faut le faire.
Ouais. Et alors, aujourd'hui, c'est jour de fête hein, pour la Fédération française de moto. C'est ce qu'on disait. Le rôle de porte-drapeau, peut-être, je sais pas si le mot convient, mais que Johann Zarco est prêt à endosser. Il l'a dit encore une fois. Il le dit régulièrement. C'est important aussi d'avoir un champion.
Locomotive. Locomotive, voilà. C'est le terme que j'utilise. Johan peut être une locomotive. Il est tout à fait prêt à l'être, à le faire. Aujourd'hui, il s'implique déjà dans la formation de jeunes pilotes avec Laurent Felon dans leur école.
Vrai, ça, c'est important à souligner.
C'est une structure que la fédération soutient également. Donc ça, il a vraiment, en plus, il est motivé par cela. Il a pris à cœur, donc, ce rôle de locomotive. Et si aujourd'hui, il commence à remporter des grands prix, eh bien, on verra que je pense qu'il va vraiment apporter beaucoup au sport moto.
Alors, je vais continuer à te poser des questions puisque je sais que tu dois retourner sur la grille, hein, de départ de ce Grand Prix, justement. Quelles sont les qualités, si on devait les isoler? Bon, apparemment, il en a beaucoup, mais les principales qualités de Johan Zarco, qu'est-ce qui fait la différence? Comment il est arrivé à ce niveau-là, déjà?
Bon, alors, évidemment, il est doué. Bon, mais ça, c'est un lieu commun de le dire, mais je crois surtout qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est un garçon qui a énormément travaillé, sans doute plus que les autres, hein. Laurent Felon, d'ailleurs, à ce niveau-là, l'a vraiment entraîné. C'est une méthode quasi militaire, d'ailleurs, faut le dire. Ouais. Il le revendique, d'ailleurs, ouais. Laurent.
Une rigueur.
Visiblement, ça paie ses fruits, et aujourd'hui, ça fait un grand champion.
Est-ce que la moto aujourd'hui en France est en expansion? Bon, on sait que la fédération a un nombre élevé de licenciés, que ça augmente un petit peu chaque année. Alors, on va dire un mot, on va pas ternir la fête, hein, mais enfin, faut se battre parfois contre les pouvoirs publics. Moi, je le dis carrément, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur la moto. On peut rester optimiste pour la moto en France?
Non, on peut rester optimiste, il faut rester optimiste, même si en effet, il y a des épées de Damoclès de nombreuses au-dessus de nos têtes, hein. Le sport mécanique en général n'a pas toujours très bonne presse, c'est pas toujours politiquement correct, hein, mais en tout cas, ouais, la fédération, et tu le sais, on se bat là-dessus. Et puis encore une fois, si on a un porte-drapeau aussi qui transcende un petit peu qui sort un petit peu du noyau du microcosme moto pour aller sur la presse grand public, sur les médias grand public, ça nous apportera beaucoup.
Et il est capable, lui, de déborder, justement, même si c'est quelqu'un de réservé, là aussi, c'est pas un showman, hein, Johan.
Alors, il a bien évolué, bien changé, ouais. Hein, je pense que Dominique sera d'accord avec moi là-dessus. On se souvient tous d'un garçon un petit peu introverti, il faut le dire, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, c'est un garçon qui, on sent qu'il a évolué, qu'il est beaucoup plus à l'aise, et je pense que ça peut être un bon ambassadeur.
Tu sens ça aussi, Dominique?
Ah bah, tout à fait, oui. Non, il s'est métamorphosé complètement, ça lui a permis justement d'avoir deux titres consécutifs, chose qui est quand
en
même
moto 2,
en moto 2,
exceptionnel,
chose qui est
deux champions du monde.
Pas évidente quand même, renouveler un titre, il faut quand même se battre, et Johan s'est épanoui avec Tech 3, il a retrouvé un peu une seconde famille, donc la collaboration entre Tech 3, Laurent Felon qui cadre un petit peu tout ça, je crois que ça amène vraiment un très grand champion, j'espère qu'on pourra le voir encore pendant de nombreuses années, et comme le disait justement Jacques, ça va être un moteur justement pour les jeunes, une référence pour les jeunes, en espérant naturellement que ça déclenche un petit peu de la presse nationale, mais également des partenaires. Alors, même si l'espace sur les motos est un petit peu réduit par rapport à une voiture, la surface de carénage, mais par contre, j'espère qu'il y a des entreprises françaises qui vont enfin comprendre que la moto, c'est un beau spectacle, c'est professionnel, c'est des gens qui savent se tenir, c'est pas des débordements non plus, et qu'il faut pas de toute manière associer ce que l'on rencontre sur la route avec le circuit.
Bah, de toute façon, et sur RMC, on a plaisir à le dire régulièrement, on est quand même la seule radio généraliste à avoir une émission de sport mécanique tous les dimanches, donc régulière, c'est le rendez-vous. On parle beaucoup de moto également, parce que oui, tu voulais rajouter quelque chose.
Oui, non, je rajoute justement qu'à ce niveau-là, la Fédération française de moto fait énormément dans ce sens-là. Il y a également un syndicat qui s'est créé entre les circuits, les professions associées, parce que ça représente quand même de l'emploi, ça représente du chiffre d'affaires.
Bien sûr.
Donc, pour essayer de structurer tout ça et faire en sorte de tenir qu'on arrive à défendre justement cette catégorie, ou en tout cas cette discipline, de façon à ce que les pouvoirs publics, ben, ils prennent conscience que c'est pas uniquement tourner une poignée et faire du bruit, mais il y a autre chose également derrière.
Bien sûr, il y a une industrie derrière. Jacques, ça va être le dernier mot parce que je vais te lâcher, je l'ai promis, pour que tu ailles sur la grille de départ, effectivement, de ce Grand Prix de France. Est-ce que tu vas t'adresser à Johan ou tu vas respecter sa concentration, son intimité? Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête là maintenant à une demi-heure du départ du Grand Prix?
Je vais lui foutre la paix, hein. Je vais le laisser. Je passerai à côté de lui, je lui ferai un petit signe, mais j'ai été pilote de Grand Prix, je sais que c'est pas le moment d'engager la discussion.
Bon. Merci beaucoup, Jacques.
On a un point commun avec Jacques, c'est qu'on a gagné tous les deux le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone.
Ah bah, tu vois. Bah, félicitations, messieurs. C'est la France qui gagne, comme on dit. Merci beaucoup, Jacques Boll, président de la Fédération française de moto, d'être venu dans le studio d'RMC. Je sais que le timing est serré. À bientôt, Jacques. Alors, bien sûr, Patrick reste avec moi. Dominique Sarron reste avec moi. On se retrouve dans un instant. Dominique reste un peu avec moi. On se retrouve dans un instant. Vous êtes bien sûr RMC. Plus que jamais, la radio des sports mécaniques et de la moto, restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors. Jean Lecroix.
Et nous sommes toujours au Mans, vous le savez, pour ce Motors extrêmement spécial avant le départ du Grand Prix de France Moto. Ce sera dans une trentaine de minutes maintenant avec la pole position du Français Johan Zarco avec sa Yamaha du team Tech 3. Je suis toujours dans le studio avec Dominique Sarron, avec Patrick Plisson et Laurent Felon va nous rejoindre dans un instant. Dominique, une dernière question avant de te lâcher. Donc ce Grand Prix de France, on l'a dit, c'est quelque chose de particulier pour les pilotes français. Là aussi, est-ce que tu penses, la question elle est brutale, que Johan Zarco peut gagner ce Grand Prix, va gagner ce Grand Prix? Allez, on se bouge.
Vendredi soir, j'avais annoncé que Johan serait première ligne, mais peut-être pas pole position, compte tenu du matériel dont il a à disposition. Il a fait la pole, il est capable de gagner.
Il est capable de gagner. Bah écoute, on va rester là-dessus. Dominique, je te remercie infiniment d'être venu. Je sais que tu vas foncer sur la grille de départ.
Et bon Grand Prix. Hein. Il va y avoir de l'ambiance.
Ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'antenne. On va continuer dans un instant avec Laurent Felon. C'est le briefing de Motors.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Et ce briefing de Motors, il est en compagnie de Laurent Felon qui nous rejoint maintenant dans la loge RMC sur le circuit du Mans pour ce Grand Prix. Bonjour Laurent Felon.
Je vous remercie à vous de m'inviter.
Écoute,
c'est pas moi l'acteur. L'acteur, c'est Johan Zarco. Moi, je suis juste le paysan qui a mis la graine et qui a arrosé et qui continue à tailler l'arbre.
Oui, mais il fallait bien arroser. Alors justement, puisque tu abordes ce chapitre, on se pose toujours des questions, évidemment, de l'extérieur. Je sais que c'est des liens particuliers qui vous unissent. Tu t'occupes de Johan depuis extrêmement longtemps. Qu'est-ce que tu as décelé chez lui? Qu'est-ce qui t'a incité justement à autant investir de temps, d'argent, pour l'amener là où il est?
Ça a été des années de course, puisque depuis 1979, je suis de la course moto. Donc à un certain moment, j'ai eu beaucoup de pilotes. J'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis retrouvé, un gamin est venu me voir sur la piste de d'Aiguière. Je vous parle ça en 2003 ou 2004, je crois. Et moi, je travaillais pour Poligny, donc j'ai été licencié de chez Poligny. Son papa est venu me voir. Il m'a dit, voilà, mon fils, il faisait champion de France. Il m'a dit, ouais, mon fils, il est... Et on a fait un test avec une moto qu'on avait fait la course avec et Johan était pas mal. Il avait des aptitudes qui étaient bien et tout. Et après, on a commencé à travailler, on s'est dirigé vers l'Italie, parce que le championnat était très élevé.
Très élevé, oui.
Et ça a été un rapport humain, c'est-à-dire un vieux, un jeune, et qui a écouté un vieux.
Il est venu habiter chez toi, même.
Ouais, c'est plus tard qu'il est venu habiter chez moi, parce qu'à un moment, il fallait gagner la Rookie Cup. Et lui, il est dans un environnement que les parents ne sont pas, sont sportifs, mais ne sont pas dans la moto.
D'accord.
Donc la moto, c'est quand même une vraie passion. Et on a ça dans le sang, on l'a pas, comme n'importe quel sportif qui aime le ballon, qui aime ça. Et moi, ça fait très très longtemps, ma famille est moto. Famille moto, quoi. Donc, Johan s'est aperçu de ça, il m'a dit, ben, Johan est arrivé de Cannes en scooter. Et il a sonné, il a dit, je veux venir habiter chez toi, c'est pour gagner la Rocky Cup.
D'accord. Et il avait compris qu'il fallait passer par là.
Voilà, vivre moto, faire la mécanique, sentir, être avec moto, quoi. Et ça s'est bien passé puisque il a vécu 7 ans chez moi. C'est-à-dire que après,
est-ce qu'on peut dire quelque part que c'était comme ton neveu ou un deuxième fils, je sais pas comment on peut appeler ça. Quel type de relation vous entretenez même aujourd'hui?
C'est un repas maintenant ça fait 13 ans je pense.
Ouais.
Et c'est une relation humaine, respect, puisqu'il y a eu des parcours où ça a été assez compliqué, quoi.
Bien sûr.
Et il faut se respecter mutuellement. Même que des fois, bon, il y a des trucs comme dans un couple.
C'est normal.
C'est un couple, un peu un couple, quoi.
Un peu un couple.
En plus,
oui.
Bon, il y a eu la famille, il y a eu ma femme. Donc, ouais. On a essayé de protéger la.
Comment tu définirais ton rôle? Manager, ça te va ou plus que ça? Conseiller, consultant, un peu tout à la fois?
Je suis plutôt le couteau suisse, je pense.
D'accord.
Parce que manager, mécano, maintenant on a une équipe avec plein de gens autour de nous, mais
ouais.
Mécano, pour aller chercher, à un moment, il fallait chercher les sous. Et faire plein de choses, quoi, parce que
bien sûr.
Donc un peu couteau suisse, je peux pas dire, c'est pas
non, mais ça va très bien, voilà, ça va très bien. C'est justement l'emploi qui convient au moment opportun. Est-ce que tu t'attendais, est-ce que tu pensais vraiment que Johan, quoi qu'il arrive maintenant, pourrait faire cette carrière-là, pourrait parvenir au plus haut niveau?
Dans la vie, on peut pas dire oui, c'est sûr. Vous savez, un gamin, c'est comme un gamin. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, ce gamin. Un garçon, il y a l'adolescence, il y a tout ça, il y a plein de choses, des parcours. La seule chose qu'il a dans sa tête, ça prouve que Johan est très intelligent et qu'il a vu quand même qu'on était, que j'étais quelqu'un de, je pense, hein, de respectueux et de confiance. Et ça a été une fusion tous les deux parce qu'il y a eu des moments, des bas, des hauts. Et moi, j'ai toujours eu ma ligne droite pour essayer d'y amener le meilleur pour lui, même il y a des fois où ça allait pas, dans sa tête et tout. Et on a fait un beau parcours parce qu'il faut regarder la courbe depuis l'âge de 13 ans jusqu'à maintenant. C'est pas une courbe qui va d'un pic monter,
c'est mais régulier.
Elle est et c'est régulier. Donc, on a toujours, j'ai toujours fait envers Johan et ma famille pour qu'il soit bien.
D'accord.
Et
le
toujours
dans les meilleures conditions.
Les meilleures conditions pour y apporter le maximum. Après, vous savez.
Ouais. Oui, il y a des aléas. Mais, et quelle est sa plus grande qualité ou quelles sont ses principales qualités? Moi, je vais te dire, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sur la moto, évidemment, mais c'est en dehors de la moto. Il ne commet aucune erreur. Il réfléchit à tout ce qu'il fait. Et même à chaud, il est capable d'analyser sa course. Ça, c'est très rare chez les pilotes. Il est très lucide.
Mais il faut savoir que ça s'appelle de l'expérience. Parce que depuis le début, vous prenez le parcours de Johan, c'était pas parfait d'entrée. C'est pour bien montrer aux autres que si on veut quelque chose dans la vie, si on se remet en question, tout le monde peut y arriver. Et Johan s'est remis en question, il a voulu arriver à son rêve, il est arrivé. Parce qu'il y avait plein de personnes, que ce soit en Italie, qui étaient plus vite que lui,
ouais.
Et qui sont arrivés, maintenant ils sont dans leur canapé, ils regardent la télé, alors que si...
Lui, il a continué.
Et lui, il a continué. Donc ça veut dire qu'il y en a certaines... entre deux personnes, une relation qui a permis autant lui que moi et surtout une confiance mutuelle pour faire cette course. Parce que si la personne est seule, on sait que dans la vie, t'es seul, tu peux pas y arriver. Si tu arrives à avoir une personne de confiance à côté de toi qui lui permet de faire des choses.
Et puis d'avoir un miroir, d'avoir un retour.
Et voilà, ça peut faire des choses.
Alors, une autre question. Maintenant, il est en, quoi qu'il arrive, il est en MotoGP. Il a fait le résultat qu'on connaît. En plus, il est là au rendez-vous. Il a décroché la pole. C'est pas évident devant son public. Il le dit lui-même. Je me nourris de la passion du public pour avoir justement une motivation supérieure. C'est pas évident. Tu aides à le protéger ou il en a pas besoin?
Non, je pense que c'est son rêve est là. Il est arrivé parce qu'au Grand Prix de France, avec organisé par Claude Michi, faire ça et ce public qui devient. Et chaque fois que les gens viennent me serrer la main, je les félicite parce que
De leur passion, de leur présence.
Passion, parce que le public, vous avez rigolé, est devenu Racing.
Ouais.
Alors quelques années en arrière, le public était quand même fêtard.
Hein? C'est clair.
Et non, là, de là, plus là, en plus, ce soir, on sort le soir, il y a de plus en plus de passionnés. Et ce qui me fait plaisir, ça prouve qu'on est autant que les Espagnols et les Italiens. On peut changer les gens et arriver à leur donner la passion de la moto. Parce qu'il faut savoir que la passion de la moto, quand on a une passion, eh ben, c'est magnifique.
Alors, ça me permet de rebondir. Est-ce que tu penses qu'il a une mission quelque part? Il l'a évoqué, Johan, en conférence de presse hier. On va dire, on croise tous les doigts, hein, dans quelques minutes, ce sera le départ du Grand Prix. Mais quel que soit le résultat, est-ce qu'il est le porte-drapeau, non seulement de la course moto, mais il l'a dit lui-même, de la moto en France? Et ça, c'est important.
Ben, ça va sûrement amener un déclic. Après, porte-drapeau, drapeau et tout. Il y a plein de gens qui rêvent. La seule chose que je peux dire, c'est, quand on rêve, il faut travailler à côté. Et peut-être que votre rêve arrivera. Et se donner la chance et tout. Et faire des sacrifices.
Il faut mettre les éléments. Alors, dernière question, elle est incontournable. Hein. Il est chez Yamaha aujourd'hui. On le sait, il y a eu ce choix étonnant de KTM que tu justifies pleinement parce que sûrement vous avez des infos que nous on n'a pas. C'est vrai qu'aujourd'hui on se dit, oui, mais par exemple, si c'est vrai, s'il avait une place chez Honda, peut-être numéro 2 de Marquez, alors qu'est-ce qui a fait le déclic et comment vous avez pris la décision ensemble d'aller chez KTM?
Moi, je change pas mon discours que j'ai eu dans la presse. Suzuki, on y était, 2016. On avait un contrat à Suzuki. On était payé par Suzuki. Ils sont arrivés à joindre une fois. Et ils ont dit, excuse-nous, mais on pourra pas te donner la moto d'usine. On a préféré le gamin.
Ils n'ont pas respecté leur parole.
Moi, c'est un gamin et il était vraiment mal.
Ouais.
Et j'ai dit, bon, ok, on va finir la saison comme ça. On finit en bon terme et tout. Donc, je peux pas retourner chez quelqu'un qui, c'est comme
parce qu'on rappelle qu'il était pilote
d'essai. On va rigoler. C'est comme une femme, un coup, elle va à droite, elle va à gauche, puis elle revient, elle veut te garder, quoi. On sait ce qu'on veut, donc c'est fini, hop.
Ils n'ont pas respecté le contrat.
Ils ont pas répondu. Honda. Il y a Marquez.
Eh oui. Il est chez lui.
Il est chez lui.
Ouais.
Tu mets, ça ferait un deuxième Pedrosa.
Ouais.
Et il faut respecter parce que c'est
bien
un
sûr,
talent
bien sûr,
Marquez.
Bien sûr.
Plus qu'il a fait, en parlons pas des bousculades parce qu'il va avoir les pleureuses qui vont continuer de leur... Non, la course moto c'est ça. Donc moi je dis on peut pas mettre Johan Zarco à côté de Marquez.
Bien sûr. Alors Yamaha.
Ah oui, on sera à HRC, il aurait le bouton à HRC, il aurait la bonne moto mais il y a Marquez.
Il aurait toujours été le numéro 2.
Et il faut pas penser que Marquez il prend les informations de Johan pour se remettre en question parce que Marquez est très intelligent et
bien sûr.
Voilà, donc hop.
Donc et Yamaha n'a pas fourni
on a attendu, je l'ai redit.
Bien sûr.
Il y a des personnes qui s'appellent Hervé Poncharal et Eric De Seyne, qui a foncé et qui a fait le maximum. Et ils sont même pas venus voir, même en fin d'année, rien du tout. Ils ont pas, Bon. Donc, à un moment.
Et j'ai vu ça, mais je l'évoque, Ducati. Il y a eu une vraie piste, Ducati, ou pas?
Ouais, ils sont venus me contacter 5 minutes. Mais ça reste entre nous, ils nous ont
d'accord.
dit.
D'accord.
Mais, okay. à un moment, quand vous avez une usine.
Il n'y a pas une vraie proposition.
Non. Quand d'accord. vous avez une usine KTM. Ouais. Européenne.
Ouais.
Que chaque fois, ils se
avec un gros sponsor derrière.
Voilà. Qui, à chaque fois, ils se mettent à l'endroit. Et qui disent. On veut être champion du monde.
Et ils ont gagné partout. Jusque-là, voilà. ils ont gagné partout.
Dakar, super motard, motocross.
Tout.
Et en moto 2.
Ouais.
Et
ils misent sur Johan, du coup.
Ils veulent Johan.
Est-ce qu'il sera pilote numéro 1 ou pas?
Ah, il est pilote numéro 1.
D'accord. C'est
donc
clair.
Ils veulent champion du monde avec KTM.
Ok.
Vous voyez les prétendants qui étaient sur la moto à Johan, ils disaient que la moto était pas bonne. Et elle a rien qui a changé, même pas un boulon.
Ouais.
Donc, à un moment, moi, je peux vous assurer.
Le choix,
Johan continue à travailler comme il sait travailler. On est champion du monde. Avec KTM.
Ben
et ça fera du bien à la moto parce que c'est européen.
On va croiser les doigts. Laurent Felon, merci beaucoup.
Merci
d'être venu à quelques minutes du départ du MotoGP. Ici, on va tous
et merci à tous les auditeurs et.
Ah ben, je peux te dire
RMC.
Que sur RMC,
merci.
Voilà, tout le monde.
Merci
à vous. Voilà, c'est un plaisir d'accueillir effectivement Laurent Felon dans cette loge à quelques minutes du départ de ce Grand Prix où l'attention, toujours avec Patrick Plisson. Patrick Plisson, ancien pilote de Grand Prix, 45 Grand Prix au compteur quand même Patrick. Et là effectivement, on peut dire que l'attention est en train de monter non seulement sur la piste où vont s'aligner les 24 pilotes, mais autour avec les 106 000 spectateurs qui sont là.
Spectacle est effectivement incroyable, 106 000 spectateurs, les tribunes sont jaunes et vertes aussi hein, maintenant, hein.
Oui.
Et sincèrement, j'ai jamais vu autant de monde au Grand Prix depuis 3 jours.
Le jaune, effectivement, c'est également pour Valentino Rossi, hein, qui partira loin sur la grille de départ, puisqu'on va y revenir à cette grille de départ, mais emmené par le Français Johann Zarco, c'est la 4e pole position de sa carrière en MotoGP, il en avait décroché 15 en Moto2, il devance Marc Marquez, et tout à l'heure, Dominique Sarron nous racontait à quel point Marquez avait fait un tour parfait. Mais Zarco a fait encore mieux. Et Danilo Petrucci, c'est un peu l'invité surprise de la première ligne avec la Ducati.
Ah, un petit peu l'invité surprise. Vous savez qu'on commence un petit peu à parler des périodes de transfert. Et Petrucci, effectivement, il a quelques menaces. Donc, il a fait une superbe troisième place en première ligne. Et donc, il essaye d'assurer son avenir au meilleur niveau.
Et on va y revenir évidemment à ce Grand Prix dans un instant. On a Andrea Iannone avec la première des Suzuki et puis le pilote officiel Dovizioso qui a reconduit son contrat pour 2 ans avec le team officiel Ducati et Jorge Lorenzo. Lui, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Le multiple champion du monde qui est toujours chez Ducati sur la deuxième ligne et puis la troisième, on vous l'a dit, emmené par Jack Miller, l'Australien de Ducati et les 2 Yamaha officiels de Vignales et de Rossi. Vous êtes bien dans Motors, on est sur le circuit du Mans. On va vivre un Grand Prix formidable de MotoGP. Vous restez avec nous, bien sûr. Motors continue.
RMC Motors. Jean Lecroix.
Et nous vivons un Motors exceptionnel ici depuis le circuit du Mans pour le Grand Prix Moto. Les pilotes sont en train de s'aligner sur la grille de départ. Les 24 pilotes de ce Grand Prix Moto emmenés par le Français Johann Zarco au guidon de sa Yamaha du Team Tech 3. Je suis toujours avec Patrick Plisson, ancien pilote de Grand Prix, bien sûr, qui va rester avec moi. Nous allons vivre ensemble ce Grand Prix de France en direct et en intégralité. Mais tout de suite, c'est la dernière ligne droite maintenant de Motors, en tout cas. Ça s'appelle Radio Paddock, c'est avec Aurélien Tirsin.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Hey, salut Aurélien, merci de me rejoindre.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Alors écoute, avec toi on va faire un petit tour d'horizon et oui, il y a une autre actualité en sport mécanique et on va peut-être commencer, si tu veux bien, par le rallye WRC du Portugal. Et là, ça s'est moins bien passé pour les Français.
Ouais, effectivement, bah notamment pour Sébastien Ogier, hein, le champion du monde français qui a eu des petits soucis, qui a abandonné vendredi notamment, qui a pris une grosse pénalité. Le Français est reparti hier, mais aujourd'hui il n'a pas pris part à la 19e étape, la 19e spéciale qui a été remportée par un Finlandais Teemu Suninen devant un autre Finlandais Zapekka Lappi et c'est l'Espagnol Dani Sordo qui a été troisième au classement général. C'est le Belge Thierry Neuville qui est largement devant le Britannique Elfyn Evans qui est deuxième et donc le Finlandais Suninen qui est troisième. Donc un rallye très surprenant effectivement Jean-Luc parce que il y a aussi Jari-Mari Latvala le Finlandais qui est très loin au classement général comme Ogier. Donc c'est un rallye à surprise, on l'attendait pas autant de casse.
Eh oui, c'est vrai. Et puis, évidemment, ça va servir les intérêts de Thierry Neuville, qui, on le rappelle, court toujours après son premier titre de champion du monde, à l'inverse de l'équipage français. On va dire un rallissant, un joker, peut-être, pour l'équipage français. Aurélien, il y a également d'autres catégories en moto, course moto, bien sûr. Il y a le Moto 3 et le Moto 2 qui se sont couverts il y a quelques minutes maintenant sur ce tracé du Mans.
Avec beaucoup de surprises, notamment en Moto 3, la victoire de l'Espagnol Albert Arenas. C'est son premier podium. Ça fait 4 ans qu'il est en Moto 3, donc c'est vraiment une grosse surprise pour lui. Deuxième Andrea Mignol, l'Italien, troisième Marcos Ramirez, un autre Espagnol. Et beaucoup de surprises parce que le leader du championnat, Marco Bezzecchi, a chuté, emporté dans sa chute par Jorge Martins. Et des surprises aussi parce que l'Italien Fabio Di Gianantonio avait gagné cette course, mais avec à cause d'avoir après avoir coupé un virage, il a pris 3 secondes de pénalité et donc rétrogradé à la 4e place. Donc finalement, victoire d'Albert Arenas, l'Espagnol. Et puis en Moto2, là, c'est une course beaucoup plus calme. Victoire de l'Italien Francesco Bagnaia. C'est sa 3e victoire cette saison. Il est leader du championnat du monde. Derrière lui, 2 Espagnols, Alex Marquez et Joan Mir.
Et oui, on trouve un autre Marquez, effectivement. C'est le petit frère de Marc qui, effectivement, essaie, lui, de décrocher son titre de champion du monde en Moto2. Mais il y a de l'opposition, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut signaler peut-être la 8e place du français Fabio Quartararo. C'est plutôt pas mal, Aurélien. Il revient aux affaires, là. Il est dans le top 10.
Ouais, effectivement, le français qui n'a pas toujours réussi des performances comme ça. Mais là, donc, le Quartararo qui, devant son public, on espère que pour Joan Zarco, ça va également le pousser à faire une belle performance. Joan Zarco qui est donc en pole position, hein, tu l'as rappelé évidemment à de nombreuses fois dans Motors, Joan Zarco qui partira en pole position devant le leader du championnat du monde, Marc Marquez, l'Espagnol, Danilo Petrucci, la petite surprise, l'Italien qui est aussi en première ligne, 3e, une deuxième ligne avec 2 autres Italiens, Andrea Iannone, 4e, et Andrea Dovizioso, 5e, Jorge Lorenzo sur sa Ducati est 6e, l'Australien Jack Miller est 7e, donc en 3e ligne avec Maverick Vinales, vainqueur l'an passé devant Zarco, donc au Grand Prix de France au Mans, Valentino Rossi qui n'y arrive pas, un 9e. D'ailleurs, les deux Yamaha d'usine, 8e et 9e, donc loin de Joan Zarco, lui, une Yamaha et sa moto satellite, comme on dit. Dani Pedrosa est 10e, Tito Rabat, un Espagnol, est 11e, Alex Espargaro, 12e, et Cal Crutchlow, qui est également une petite surprise, partira seulement en 13e position pour ce Grand Prix de France.
Et oui, Crutchlow d'ailleurs qui a chuté assez lourdement hier. On va en parler avec Patrick Plisson, hein, qui est à mes côtés, qui est monté la chute classique, mais qui fait mal à moto, hein. Le high side, la moto qui raccroche, et Carl Crutchlow qui, on le rappelle, a été leader du championnat du monde, hein, en début de saison, a remporté un très beau Grand Prix en Argentine et qui se blesse. Mmh. On a craint même un moment une fracture du bassin ou de la hanche.
Ah, effectivement, on a vu Carl Crutchlow hier après sa chute arrêté, protégé par sa moto, qui n'arrivait pas à se relever. On l'a vu aussi partir sur le
sur la civière.
Sur la civière. Et donc, bon, il a des douleurs à la hanche droite et l'épaule droite. Mais bon, il est sur la grille de départ. Il a fait le warm-up ce matin. Il a fait un temps d'ailleurs pas ridicule. Et donc, il est à présent, mais un peu diminué.
Ah bah, il est un peu diminué. Effectivement, on sait que les pilotes de Grand Prix sont des coriaces. Tiens, je vais rebondir là-dessus aussi. Moi, je dis toujours, les pilotes de moto, d'une manière générale, sont des héros parce qu'ils arrivent à rouler avec des blessures physiques. Ça t'est arrivé aussi dans ta carrière?
Oh, totalement, oui. Un Grand Prix de Tchécoslovaquie avec une clavicule cassé 4 jours avant, d'ailleurs, oui, on ne la voit pas, mais elle n'est pas très belle. Et j'ai croisé ce matin dans le paddock le docteur Costa, qui était là.
Ah oui, qui était le magicien.
Qui nous a tous, pas sauvé la vie, mais soigné au moins. Et j'ai croisé ça tout à l'heure, il commence à avoir un certain âge, hein, il est âgé, mais on lui doit beaucoup à ce docteur Costa, les fans le connaissent.
Ah oui, il a remis un sacré nombre de pilotes sur la piste, et pour m'être fracturé, moi, les deux clavicules, modestement, sur la route. Hein. Ah, oui. Je sais ce que c'est, je sais pas comment vous faites pour rouler sur une moto de Grand Prix, de surcroît, quand on sait à quel point c'est douloureux et à quel point c'est pénible. Allez. On va peut-être se projeter un petit peu également, Patrick, sur cette grille de départ avec finalement l'invité normal, c'est Marc Marquez qui est au milieu de cette première ligne, mais on l'avait dit avec Zarco qui a réalisé l'exploit de résister à la pression, de faire mieux que ça, de trouver une motivation, et Dominique Sarron qui était au bord de la piste nous disait il avait réalisé le tour parfait pourtant, Marquez.
Le tour parfait, un tour extraordinaire, d'ailleurs il a fait son temps sur un seul tour, hein. Il avait droit à deux tours, Marquez a fait deux tours, Joan Zarco a fait un seul tour en mettant tous les ingrédients pour faire ce tour parfait. Marquez aussi pensait avoir fait le tour parfait, et malgré tout, notre français, Johan, a fait encore mieux. Et c'est la 9e fois depuis le 9e Grand Prix de suite qu'il part en première ligne. Hein. Je rappelle un petit peu cette petite statistique. 9e fois en première ligne.
9e fois, c'est impressionnant. Effectivement, on rappelle que ce matin, il a chuté sans gravité, Joan Zarco. Il a été accroché par un autre pilote. Je crois que c'est le moment de passer le guidon. Bah oui, Arnaud Souk.
Oh, mais je t'attendais, mais ça fait des minutes et des minutes que je t'attends, Jean-Luc. Je peux plus t'arrêter, mais je suis tellement ravi. Oui, tu me passes le guidon, je te le redonne dans 10 minutes parce que moi la moto c'est pas mon truc. Tu vois, c'est le scooter 125 juste moi sur le périph' à Paris. C'est déjà pas mal, tu me diras. Le Grand Prix France, évidemment, en direct, en intégralité, dans l'intégral sport sur RMC. Avec toi, Jean-Luc, dans un instant, Joan Zarco va-t-il réussir l'exploit de s'imposer sur le circuit Bugatti du Mans? On va parler de moto, on va parler de cyclisme également cet après-midi avec la 15e étape du Giro, encore une étape de montagne, et peut-être Thibaut Pinot pourquoi pas, qui pourrait briller. On sera tout à l'heure avec son directeur sportif Marc Madiot, qui sera notre invité aux alentours de 14h45. Et puis, si vous aimez le foot, vous allez être servi de 15h à 17h. On sera avec coach Courbis pour revenir sur la 38e et dernière journée de Ligue 1, les principaux enseignements de la fin de ce championnat de France, la présentation également de Thomas Tuchel, l'Allemand qui va prendre ce soir la tête du banc du Paris Saint-Germain. Bref, ça et plein d'autres choses, c'est dans un instant dans l'Intégral Sport sur RMC. C'est dans un instant les infos.